Place Info.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est donc parti pour les informer, une heure de discussion, une heure de débat animé. Nos invités ce soir, Chloé Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Franck Dedieu est également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Notre troisième informé, c'est Frédéric Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur exécutif de la Marseillaise. Des permanences de députés de la majorité dégradées la nuit dernière encore dans le Var, sans faire de gros dégâts, se défend la FNSEA. Comment analyser ces actions? Ce sera donc notre premier débat. C'était il y a 37 ans, jour pour jour, l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. L'ancien patron du renseignement reconnaît devant un juge avoir passé un accord avec les terroristes pour qu'ils ne commettent plus d'attaques dans notre pays. La fin annoncée de la coalition en Italie, à quoi joue Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et leader de l'extrême droite, veut de nouvelles élections au plus vite. Un centenaire aujourd'hui, celui de Zorro, l'occasion de demander à nos informer ce qu'ils pensent de ce héros masqué. On terminera également par leur coup de cœur. Pas de Z qui veut dire Zorro, mais des GJ comme Gilets jaunes ou encore des sigles FNSEA du nom du syndicat agricole. Voilà les tags retrouvés ce matin sur la façade de la permanence de Valérie Gomez-Bassac, députée LREM du Var. Depuis un mois, environ une quinzaine de permanences d'élus de la majorité ont été dégradées un peu partout en France. Et ce matin, Christiane Lambert était l'invité de France Info. Nous avons demandé à la présidente de la FNSEA si elle condamnait ces actes.
Il y a des distances importantes et ça multiplie par 3 le prix de la paille. Par exemple, entre l'Île-de-France ou la Seine-et-Marne et la Lozère, département d'élevage qui a besoin de paille, eh bien, ce sont des coûts de transport très importants. Nous demandons aux sociétés d'autoroutes de faire un petit geste financier. Je crois que la situation financière de ces sociétés d'autoroutes leur permet.
Alors, c'était pas le bon son de Christiane Lambert qui parlait simplement sur ces dégradations de permanence. Elle disait en fait qu'il n'y avait pas eu de fenêtres cassées, de portes abîmées. Voilà, elle semblait en tout cas quelque peu dédramatiser la situation. Chloé Morin, comment vous jugez, vous, ces dégradations de permanence LREM?
Ah bah, à titre personnel, évidemment, je les condamne, mais ce qui est intéressant dans la réaction de la FNSEA, c'est que je trouve qu'elle est symptomatique de la situation de l'ensemble des corps intermédiaires qui finalement ont probablement peur d'être dépassés par leur base, une base qui se radicalise, qui trouve de moins en moins l'utilité des syndicats dans leur ensemble pour faire entendre leurs revendications et qui donc utilisent des moyens de plus en plus directs et violents pour faire passer leur message et finalement c'est un jeu qui est très compliqué parce qu'on sait que les syndicats dans leur ensemble font l'objet d'une défiance de plus en plus grande. Et on sait que depuis le début du quinquennat, il a été reproché au gouvernement aussi de ne pas aider les corps intermédiaires finalement à jouer ce rôle de tampon et d'intermédiaire entre les citoyens ou en l'occurrence les agriculteurs et puis les décideurs. Donc je pense que la FNSEA, en fait, par sa réaction, nourrit sans doute la défiance encore plus parce qu'elle donne l'impression quand même de cautionner une forme de violence. Et en même temps, je pense qu'ils sont un peu dos au mur et qu'ils ont, comme l'ensemble des syndicats, des difficultés à gérer leur situation.
Cela montre surtout une défiance envers les élus, Franck Dedieu.
Envers les élus, et tout à fait, ma voisine a raison. Les corps intermédiaires ont peur de perdre pied avec leur base. Et je crois que le fait que la FNSEA montre quand même un certain nombre de réserves, ne veut pas, dénoncer ces actes-là, c'est bien sûr une faute du point de vue moral, mais c'est aussi, et c'est là où ça a une limite, finalement, cette position de la FNSEA, c'est que c'est aussi une faute du point de vue de l'efficacité. Je dirais que les paysans, les agriculteurs, tout le monde peut comprendre qu'ils se sont pris, au cours des quelques semaines, quand même 3 coups sur la tête, ou je dirais même 4, 3 qui sont institutionnels, qui sont politiques. Hier, les députés ont voté le CETA. Aujourd'hui, c'est l'augmentation du quota d'importation du bœuf américain. Et demain, ça sera le Mercosur. Et on voit que la FNSEA, qui était plutôt, je dirais, assez proche du pouvoir par rapport à la Confédération paysanne, change de rôle. La Confédération paysanne, je les ai eu hier au téléphone, le spécialiste de l'élevage, il nous dit, nous, on veut pas, on n'appelle pas à dégrader les permanences. On appelle, en revanche, à aller voir absolument les députés LREM qui se sont abstenus pour voter le CETA. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent peut-être que le texte...
Avec eux, on pourra peut-être parler.
Avec eux, on pourra peut-être parler. On pourra les convaincre parce que si les sénateurs de droite et de l'opposition refusent le CETA, il pourrait y avoir un retour à l'Assemblée. Je ne veux pas rentrer dans des considérations trop institutionnelles. Ça, c'est un point. Deuxième point, finalement, pourquoi la FNSEA et plus généralement tous les chefs de syndicats montrent une certaine réserve dans la condamnation de la violence, alors qu'au fond d'eux, je pense qu'ils les condamnent.
C'est à tout, titre personnel,
à titre personnel, exactement. C'est parce qu'au fond, ils sentent qu'il y a quand même une exaspération. Et cette exaspération, elle dit quelque chose plus que je dirais, l'écume de la vague, un peu, de la violence. Elle dit quelque chose sur cette exaspération aujourd'hui, de cette légèreté, de cette, un peu, ce désinvolture, ce double discours. Je pense que dans les années 90, on pouvait, je dirais, avoir un certain recul, de se dire, ben voilà, je reçois Greta, mais je vote le CETA le même jour. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, et c'est quand même peut-être quelque part le propre un peu de la Révolution, qui nous rappelle un peu 1792, 1793, il faut que les politiques mettent en adéquation leur acte et leur conscience. Il y a quelque chose comme... un sens du dramatique. Il y a la conviction, l'opinion publique attend que les hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, anti-système, pro-système, je dirais, mettent en adéquation leurs actes et leurs propres pensées.
Et on va donner la parole à Frédéric Durand, le temps de faire une courte pause. Il est à 20h10, le rappel de l'info avec Claire Flochel.
3300 foyers privés d'électricité en Bretagne, conséquence des vents violents. La région n'est pourtant qu'en vigilance jaune aux orages. 26 départements allant de la Haute-Garonne aux Ardennes sont eux en alerte orange. Des orages qui perturbent le trafic SNCF dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. 160 000 véhicules étaient attendus ce vendredi dans les deux sens de circulation entre Valence et Orange, selon Vinci Autoroutes, à la veille d'un nouveau chassé-croisé sur la route des vacances. Demain, Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des départs et même du noir en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. 37 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, l'avocat de plusieurs familles de victimes demande la levée du secret défense. Demande faite après les révélations de l'ancien patron du renseignement français, Yves Bonnet, qui reconnaît devant un juge avoir passé un accord avec le groupe terroriste responsable de l'attaque. Il promet des baisses d'impôts s'il est élu lors d'élections législatives qu'il réclame. Matteo Salvini a annoncé hier la fin de la coalition au pouvoir entre son parti, la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et avec Chloé Morin, Franck De Dieu et Frédéric Durand, on débat ce soir. Notre premier sujet, c'est dégradation de permanence de députés de la majorité. Frédéric Durand, on va vous donner la parole, on ne vous a pas encore entendu. On peut reprendre peut-être le fil de la discussion de ce que disait Franck De Dieu.
Oui, non, moi je suis pas choqué ni je pense pas qu'il y ait de faute morale à ne pas condamner, parce que je suis plus choqué par contre par le fait que le ministre de l'Intérieur ait comparé des saccages à des attentats. Je crois qu'il y a une
C'était après la permanence de Perpignan le 31
voilà,
juillet.
Je pense qu'il y a une surenchère verbale qui n'aide personne et qui ramène rien au calme. Il faut savoir que la profession des agriculteurs, c'est quand même une profession où il y a un suicide tous les deux jours, où il y a une surmortalité de 30% par rapport à la moyenne de la population française. Donc il y a un désarroi dans ce milieu-là. Je crois qu'il faut le comprendre aussi par ça. Donc, s'il y a des tags et des camions de fumier déversés devant les permanences de ceux qui font les lois, qui fabriquent ces lois-là ou qui les ratifient, c'est le cas du CETA, moi, ça ne me surprend pas outre mesure. Il faut savoir aussi qu'il s'agisse du CETA ou qu'il s'agisse du Mercosur,
ça a été... C'est-à-dire que c'est la violence qui répond à la violence, qu'elle soit c'est verbale
une violence
de la part
inouïe,
des élus
c'est une... Le Mercosur, par exemple, si demain il est signé, c'est d'une violence inouïe pour l'agriculture française. Vous imaginez qu'aujourd'hui le Brésil utilise 300 sans pesticides interdits en Europe, qui va donc pouvoir mettre sur le marché européen, notamment français, dans le cadre d'une concurrence parfaitement déloyale et quasi criminelle, ces produits. C'est la même chose d'ailleurs pour le CETA, parce que le CETA, on ne dit pas de farine animale, mais j'ai retenu la phrase parce que ça m'a quand même paru assez extraordinaire. Effectivement, dans le cadre du CETA, le Canada ne peut pas importer de bœuf nourri aux farines animales. Mais ils disent quand même qu'ils peuvent faire de la farine produite de sang, de poils ou de gras des bovins qui sont ce qu'on appelle propres à la consommation. Imaginez, je vois pas comment un bœuf peut manger du sang en farine, c'est-à-dire manger du bœuf. Et à ce titre, d'ailleurs, c'est assez révélateur. Il y a un principe européen de non-cannibalisme. Donc, qui dit,
est-ce que la solution c'est pas de sanctionner justement ceux qui prennent ces lois après par les urnes?
Non mais là, si les députés, juste pour terminer deux mots, si les députés sont pris à partie, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de ratifier le CETA qui est d'ailleurs déjà à l'œuvre depuis 18 mois. Mais je crois qu'il y a des raisons précises. Il faut aller au cœur des choses. Sinon, on s'émeut de voir des tas de fumier et des tags. Moi, ça m'émeut pas.
Chloé Morin.
Moi, dans la stratégie employée par ces agriculteurs qui dégradent des permanences, finalement, j'interroge aussi la stratégie de communication, parce qu'en fait, je pense que les citoyens et les consommateurs pourraient être les meilleurs alliés de ces agriculteurs. On fait beaucoup d'études sur la manière dont les comportements alimentaires changent. Et on est dans une période de prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur la santé, du rôle de notre modèle finalement alimentaire et du modèle économique qui sous-tend le modèle alimentaire sur l'environnement. Et donc les gens se rendent compte qu'on est obligé de changer nos comportements alimentaires. On a eu un excellent exemple hier avec le rapport du GIEC qui montrait que la manière dont on mange finalement va être déterminante pour le combat contre le réchauffement climatique à l'avenir. Et finalement, nous, dans nos études, on voit vraiment cette prise de conscience progressive. Par exemple, on avait fait un sondage dans une trentaine de pays il y a quelques mois, et les deux tiers des gens interrogés, dont les deux tiers y compris en France, disaient qu'ils préféraient manger des aliments locaux, quitte à avoir moins de choix. Donc on voit que, évidemment, ça se traduit pas encore dans les comportements. Il y a la question du coût et la question de l'information qui sont des freins majeurs encore à des changements de comportement massifs, on va dire. Mais dans le combat de ces agriculteurs qui disent ben on préférerait pouvoir gagner nos vies et pouvoir être valorisés avant tout sur notre marché français, finalement, je pense que les citoyens pourraient être en soutien et en soutien concret, c'est-à-dire avant tout par l'acte d'acheter français
aux actions envers les élus.
Et donc je me dis, finalement, est-ce que par les violences ou les actes qui sont en tout cas au moins controversés, si ce n'est condamnables,
finalement,
ça peut être contre-productif.
Oui, totalement contre-productif, parce qu'effectivement, les agriculteurs ont besoin de la bienveillance de l'opinion publique et des consommateurs, c'est le cas. Mais tout ne peut pas reposer sur le désir du consommateur de manger plus local, etc. Il y a aussi une question, je dirais, de prix, parce qu'on a mon confrère parlait du danger sanitaire, mais il y a une notion de prix. Et dans le libre-échange, et là on y est par rapport au CETA et au Mercosur, c'est que vous avez, en gros, on considère que ça ferait baisser de 10% le prix de vente pour les agriculteurs. Et c'est de quoi mettre sur la paille, j'ose dire, bien, la plupart une masse importante d'agriculteurs. Donc, il ne faut pas oublier que le libre-échange, c'est, bien sûr, il y a un problème sanitaire, bien sûr, il y a un problème, on veut dire, politique, vous savez, mais il y a aussi un problème, tout bêtement, tout trivialement, de prix. Et si on est toujours dans la course, on donne aux consommateurs cette logique de concurrence absolue, où les fermes, je dirais, canadiennes et américaines ne fonctionnent pas sur les mêmes bases de prix. Les agriculteurs, au même moment, ils ont fait des investissements, on parlait de la qualité, ils ont fait des investissements pour augmenter la taille de la surface par bête. Ils ont fait aussi des investissements écologiques, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que on se retrouve avec des investissements faits par les agriculteurs de bonne foi et en face, des perspectives de baisse des prix. prix. Il ne faut pas être un génie de l'économie pour s'apercevoir que ça s'appelle finalement un coup de ciseau là-dessus. Et quelque part, bon, on se met aussi à la place de la violence. J'ajoute à cela pour terminer, qu'il y a eu un quatrième coup, après ces trois coups, je dirais, sur CETA, bœuf américain et Mercosur, c'est quand même la sécheresse et qui augmente, les terres ressemblent à des véritables paillassons. Vous avez des agriculteurs qui passent du temps, tout simplement, à aller faire boire, à aller marcher avec leurs bêtes pour les faire boire et qui passent énormément de temps de travail. Je dirais, il y a au bout d'un moment, trop c'est trop, et encore une fois, cette exaspération, elle vient du discours. Il ne peut plus y avoir, comme dans les années 90, qui à mon avis étaient des années un peu d'insouciance, ou quelque part la distance, la légèreté, je dirais presque l'esprit canal était de bon augure. Non, on n'est plus dans cette époque-là. On est dans une époque qui a quelque chose, et on en reparlera peut-être avec l'Italie, d'un peu tragique.
Et on évoquait le fait de savoir si les agriculteurs et la FNSEA dans leurs actions étaient soutenus par la population. Vous voulez rajouter quelque chose?
Non, je voulais simplement rajouter parce qu'il y avait un problème. Il y a effectivement un problème de coût, et c'est un problème majeur. Mais il y a un problème, l'agriculture intensive dans le cadre capitaliste est criminelle pour les sols. Elle ne nourrit plus son homme, j'ai envie de dire. Donc il faut passer à un autre modèle de production. S'il n'y a pas d'autre, alors il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Friot qui propose une sécurité sociale alimentaire. Il dit qu'il faudrait conventionner les producteurs comme on conventionne les médecins et aller se servir chez eux. Donc il y a un effort, je dirais, macro à faire. C'est pas juste le désir du consommateur qui va dire « Ah, je vais me mettre à être gentil, à bien consommer ». Non, c'est structurel, c'est macro et il faut le prendre à ce niveau-là.
C'est une problématique qui doit être systémique. On ne peut pas tout faire se fonder sur, je dirais, une sorte de bienveillance. Allez, soyez sympa, consommez local. C'est très bien, mais ça ne peut pas. On a dépassé ce cadre-là. Le problème, il est systémique. Et quelque part, l'expression de cette violence le dit, cela.
On continue le débat dans un instant. On vous redonnera la parole, Chloé Morin, juste après. Un point sur l'actu à 20h20 avec Claire Flochel.
26 départements de l'Est et du Centre en vigilance orange aux orages. Une tornade a même touché le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud du Luxembourg cet après-midi. Dans le département français, les pompiers sont encore à pied d'œuvre. Ils sont déjà intervenus une soixantaine de fois, principalement pour des arbres tombés sur la route ou des toitures abîmées. Mais c'est au Luxembourg que les dégâts sont les plus importants. Première mission de sauvetage pour l'Ocean Viking. 85 migrants secourus aujourd'hui au large de la Libye. Le navire humanitaire a quitté Marseille dimanche soir et va poursuivre ses opérations en mer pendant une douzaine de jours. Une nouvelle plainte contre Neymar de la part du supporter rennais giflé par le footballeur lors de la finale de la Coupe de France fin avril. Dans une autre affaire, Neymar ne sera pas poursuivi pour viol par la justice brésilienne. La plainte qui le visait a été classée sans suite aujourd'hui, faute de preuves. L'attaquant du PSG est attendu dimanche au Parc des Princes pour la reprise du championnat face à Nîmes. En attendant, Monaco-Lyon, c'est le match d'ouverture de la Ligue 1 ce soir. Coup d'envoi à 20h45. Match que l'on suivra sur France Info.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et allez, avant de passer à notre deuxième sujet, un dernier mot sur ce dossier des permanences de la majorité, des députés de la majorité dégradés. Je voulais vous parler, enfin, vous emmener sur le terrain de cette comparaison peut-être que l'on peut faire avec ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Le sociologue Jean Biard parlait il y a quelques jours d'une comparaison en disant que les Français, peut-être la population, soutenaient les paysans en disant, nous sommes tous finalement en France des fils de paysans, donc il y avait une espèce de tolérance peut-être qui pouvait se faire, Chloé Morin.
Alors, oui, les agriculteurs ont plutôt une bonne image dans la population, donc c'est vrai qu'il y a une bienveillance peut-être plus grande.
On les juge moins sévèrement, en tout cas.
Oui, vis-à-vis de leurs actions, mais la comparaison, il me semble, moi j'établirais plutôt une comparaison, disons, sous forme d'interrogation, entre les gilets jaunes et les agriculteurs, sur est-ce que finalement, le fait que les gilets jaunes pour certains d'entre eux, aient eu recours à la violence et que, mine de rien, ça ait fini par aboutir à un certain nombre de décisions réelles et de voilà, le gouvernement, qui était quand même très fermé au début du mouvement, a fini par faire des gestes conséquents. Est-ce que ça n'a pas pu, finalement, légitimer l'idée, alors pas de manière intentionnelle de la part du gouvernement, mais est-ce que ça a pas pu légitimer l'idée auprès de publics qui se disent de toute façon la politique ne change rien? Parce que il faut quand même se rappeler qu'on vit dans un pays où l'immense majorité des gens pensent que voter, ça ne change rien, que s'engager en politique, ça ne change rien. Donc finalement, quand on voit...
Je vois Frédéric Durand qui fait non de la tête. On peut peut-être lui donner le dernier mot avant de passer à un autre sujet.
Non, j'ai fait non parce que je crois pas du tout que les gilets jaunes ayant obtenu quelque chose seraient devenus une sorte de nouveau paradigme ou un exemple pour les paysans. Pas du tout. Parce que les gilets jaunes eux-mêmes considèrent qu'ils n'ont pas du tout assez obtenu. C'est pour ça qu'ils veulent continuer. Donc je crois pas qu'il y ait une exemplification des gilets jaunes. Moi, en tout cas, je le vois pas du tout comme ça. Je crois que tout simplement, il y a un mécontentement qui perdure, qui s'installe maintenant en France. Macron le sait très bien d'ailleurs. Macron qui, lors de sa dernière sortie, a dit « Je sais que le plus dur n'est pas forcément derrière nous ». Donc il a pris conscience, distance, et je crois qu'effectivement, c'est plutôt le mécontentement qui se poursuit. Il n'y a pas, de matière à dire « Les gilets jaunes auraient réussi en état violent, donc nous allons réussir ». Je ne crois pas, en tout cas.
Franck de Dieu.
Juste un mot, l'argument est réversible. C'est-à-dire, imaginez un instant que le gouvernement n'ait pas cédé partiellement, même donné quelques miettes aux gilets jaunes, je peux vous dire que demain, on aurait beaucoup plus de personnes dans les rues.
Frédéric Durand, dernier mot sur le sujet.
Moi je maintiens que si on va vers une société qu'on appelle de la violence, après il faut mesurer tout, on n'est pas en guerre civile en France non plus, hein. Et moi je trouve les Français plutôt gentils par rapport à ce qui leur arrive, voilà ce que. Mais je pense que effectivement on risque d'aller vers des actions violentes parce qu'on a un Macron qui, même avec les quelques efforts qu'il a fait ces derniers temps, reste totalement déconnecté de ce qu'on appelle la France périphérique, la France hors métropolitaine. Celle-là, je pense qu'il ne la sent pas et qu'il ne la comprend toujours pas.
Allez, on passe à notre deuxième débat dans les informés autour de ces informations sur l'attentat de la rue des Rosiers. 6 morts et 22 blessés le 9 août 82 devant le restaurant Golden Bear dans le Marais à Paris. Dans un reportage sur France 2 l'an dernier, le numéro 1 des renseignements de l'époque annonçait avoir passé un accord avec les terroristes, un groupe palestinien dissident de l'OLP, ce qu'avait déjà évoqué le général Rondeau en 2011. Cette fois, les aveux sont réalisés devant un juge. L'accord prévoyait que les membres du commando puissent revenir en France sans être inquiétés s'il s'engageait à ne plus y commettre d'action. On est un peu en plein polar des années 80, non, Chloé Morin?
Oui, alors, enfin, de mon point de vue, ça pose avant tout la question du contrôle du Parlement sur les activités, notamment des services secrets. Et on voit que c'est une question qui est ancienne.
Alors, on était à une époque où tout ça était complètement désorganisé, 82.
Oui, bien sûr, mais la question se pose encore aujourd'hui. Elle se pose d'autant plus que avec le numérique, je pense que les outils et les moyens des services de renseignement sont beaucoup plus grands et potentiellement beaucoup plus menaçants, enfin invasifs pour les libertés individuelles. Donc voilà, cette question démocratique reste réelle. Il y avait une initiative de la droite parlementaire l'année dernière. Je crois que c'était Philippe Bas qui avait dit qu'en gros il fallait revoir la loi de ce point de vue parce que nous étions en deçà de ce que font la plupart des autres pays européens. Je pense que ça mérite en tout cas qu'on ait un débat réel et des solutions ambitieuses parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas traîner de manière éternelle.
Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire, Franck de Dieu, ces révélations?
D'abord, c'est quand même assez choquant ce pacte de non-agression. On peut se mettre à la place des familles en se disant au lendemain de l'attentat, on commence l'État commence à négocier avec les auteurs, l'organisation Abou Nidal. Moi, ce qui m'a choqué dans ce qu'a dit le patron de la DST, c'est finalement, il a dit, mais au fond, ça a marché cette histoire. Regardez, en 83, 84, 85, il n'y a pas eu d'attentat. Ça, c'est assez choquant, parce qu'il y en a eu tout de suite après, il y en a eu avec beaucoup d'ampleur. Et donc cet argument de l'efficacité, je crois que malheureusement, la tragédie des futurs attentats est la démonstration que la raison d'État peut exister, mais qu'elle a des limites, et que lorsqu'elle se fait au nom de l'efficacité, c'est le cas par exemple de la torture, même si c'est quand même assez différent, les deux problématiques sont différentes, mais c'est logique d'efficacité en se disant on sort du cadre de la morale et on est conscient de le faire parce qu'on se dit c'est au fond pour le bien commun. et tout cela se fait sans, évidemment, sans de la moindre transparence, se fait dans le secret, ça a quand même des limites. Et je crois que l'histoire, malheureusement, montre que cette logique d'efficacité, ben, il faut peut-être la repenser autrement. La question du contrôle, je pense, c'est pas dans la tradition française du contrôle parlementaire, c'est vraiment une logique d'exécutif, de pouvoir exécutif. Peut-être que là-dessus, il faudrait peut-être changer les mœurs.
Frédéric Durand, je vous propose de faire un petit teasing. On aura votre réponse, mais dans 5 minutes, on va faire une nouvelle pause dans Les Informés, le temps de faire un point sur les prévisions météo et un nouveau point sur l'info. À tout de suite dans Les Informés.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce numéro d'été, un grand dossier sur la beauté et ses énigmes. Un entretien avec Jean-Luc Godard, une sélection de 35 films pour mieux comprendre notre époque et un focus sur la Bretagne, jadis au centre du monde. Papier, en kiosque ou en librairie.
France Info sur tous les assistants vocaux. Demandez les infos à votre enceinte connectée.
Les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles pour un sommet...
France Info, 2 points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing... Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et les prévisions météo sont signées Jean-Pierre Hameau.
Attention aux orages qui pourront être encore localement violents ce soir et en première partie de nuit entre la région Midi-Pyrénées, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Prévoyez de fortes précipitations par endroits, mais aussi de la grêle et des rafales de vent dépassant la barre des 100 km par heure. Retour au calme demain matin sous un ciel partagé entre éclaircies et cumulus, porteurs parfois d'averses le long des côtes de la Manche, mais aussi dans le sud-ouest et du côté du nord des Alpes et du Jura. L'ensoleillement sera généreux autour de la Grande Bleue et en Corse. L'après-midi, les éclaircies seront souvent agréables, excepté vers les Landes et le Pays Basque où les cumulus feront de la résistance. Et naturellement, vous profiterez toujours du soleil dans le sud et le sud-est. À noter un vent soutenu de secteur sud-ouest sur la moitié nord du pays et tout au long de la journée. Comptez jusqu'à 60 km/h à l'intérieur des terres et entre 80 et 90 km/h le long des côtes de la Manche. Les températures maximales seront en baisse et en particulier dans le sud-ouest et le nord-est.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, très bonne soirée avec nous sur France Info. La suite des Informés dans un instant, il est 20h30.
France Info.
2 points, ouvrez l'info.
L'info avec Amaya Cazenave.
Les images impressionnantes d'une tornade dans le ciel de la Meurthe-et-Moselle. Des toitures ont été arrachées, des arbres sont tombés sur la route. Les pompiers ont déjà effectué une 60aine d'interventions sur zone. Comme 25 autres départements, la Meurthe-et-Moselle est en alerte orange aux orages. En Lorraine, à cause de pluies diluviennes, la SNCF a dû détourner, voire supprimer plusieurs trains. Et puis en Bretagne, plus de 3000 foyers sont actuellement privés de courant à cause de grosses rafales de vent. 37 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris, l'ancien patron du renseignement français a reconnu avoir passé un accord avec le groupe terroriste responsable de l'attaque. Entendu par un juge en janvier 2019, Yves Bonnet a admis que ses membres du groupe étaient autorisés à venir en France sans risque d'être poursuivis s'ils s'engageaient à ne plus commettre d'attentats sur le sol français. L'attaque de la rue des Rosiers avait fait 6 morts et 22 blessés. Alors que la plainte pour viol contre Neymar a été classée sans suite, c'est une nouvelle affaire qui vise l'attaquant du PSG. Après la finale de la Coupe de France, il avait giflé un supporter rennais. Cet homme a porté plainte aujourd'hui. Son dossier va être transmis au parquet de Bobigny. Neymar avait été suspendu 3 matchs fermes pour ce geste. Après 3 mois de sevrage, les amateurs de Ligue 1 vont être servis. Ce soir, c'est du foot bien sûr. C'est la reprise avec une affiche de prestige entre Monaco et Lyon. Bruno Salomon, vous allez nous faire vivre ce match ce soir sur France Info. Le coup d'envoi, c'est dans 15 minutes et Lyon va se présenter avec une équipe quasiment au complet.
Ouais, effectivement, les Lyonnais déjà alignent leur équipe quasiment type avec les recrues Joachim Andersen pour la défense centrale ou encore Thiago Mendes, hein, l'ancien milieu de terrain de Lille qui est venu renforcer cette équipe de Lyon. En tout cas, il y a aussi un nouveau capitaine. On le rappelle que Nabil Fekir est parti du côté du Betis Séville pour Lyon. Et bien désormais, il y a un capitaine qui est Bales, c'est Jason Denayer qui prend le capitanat du côté de Monaco, eh bien à Monaco aussi, on aligne quelques recrues comme Benjamin Lecomte, le gardien, ou encore Ruben Aguilar, le latéral droit. Pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué car niveau de l'attaque, cette équipe de Monaco est en grande difficulté et surtout recherche des attaquants sur le marché des transferts qui se ferme, on le rappelle, fin août. Le coup d'envoi, c'est dans un quart d'heure. L'affiche n'a pas encore fait le grand plein. Le stade Louis II n'a pas trouvé 18 000 spectateurs.
Merci Bruno, on vous retrouvera tout au long de la soirée bien sûr sur France Info. Un mot de tennis pour terminer ce journal avec Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial qui fera son retour à Cincinnati la semaine prochaine. Il n'a plus joué en simple depuis le mois de janvier et l'Open d'Australie. Si tout se passe bien, il pourrait donc disputer l'US Open. On vous retrouve pour la deuxième partie des Informés. Victor Maté.
Merci à Maya Cazenave, venons pas parler depuis à peu près 5 minutes. On les retrouve pour les informer.
20h, 21h, les informer, Victor Matet.
Avec toujours Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Frédéric Durand, directeur exécutif de la Marseillaise. On va continuer de parler pendant ces prochaines minutes de l'attentat de la rue des Rosiers, 37 ans après. On apprend donc que le gouvernement avait passé les renseignements, avait passé un accord secret avec les terroristes. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur le sujet, Frédéric Durand.
Oui, non, moi je partage le fait que ce soit effectivement choquant. Choquant d'autant plus que là encore, entre le discours officiel, je rappelle qu'il y a une règle prétendument admise, en tout cas c'est celle qui est dans la tête des citoyens français, c'est qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Donc forcément, lorsqu'on apprend ça, on est toujours un petit peu abasourdis, nous citoyens, un peu éloignés de ces choses-là. Effectivement, il faudrait peut-être songer sérieusement une réglementation en l'espèce. Mais la deuxième chose, mon collègue disait tout à l'heure, d'abord, il n'y a plus eu d'attentat. Non seulement c'est faux, mais en plus, il dit quelque chose pour moi qui est encore plus cynique, c'est qu'il dit après, s'il y avait des attentats ailleurs, en Italie ou ailleurs, c'était pas mon problème. Je trouve ça, parce que l'Europe existait déjà à l'époque, je le rappelle, malgré tout. Je trouve ça assez choquant de dire, ben, finalement, si on s'est débarrassé du problème sur le territoire français, si ça arrive ailleurs, voilà, c'est des raisonnements quand même terriblement cyniques. Voilà, donc je pense que les familles aujourd'hui, et on l'a vu, sont elles abasourdies, parce qu'elles ont le sentiment que justice ne leur est pas rendue, puisqu'il y a des gens qui sont coupables, ce sont des gens qui ont tué des innocents, des gens qui sont coupables, qui finalement, par la grâce d'un pacte de non-agression, eh bien, ils ne seront condamnés à rien.
Et ça jette le doute aussi, peut-être, sur d'autres actions secrètes du gouvernement concernant le terrorisme ou autre, Chloé Morin ?
Bah forcément, ça nourrit le doute. C'est d'autant plus inquiétant qu'on sait qu'on est aujourd'hui dans un contexte de menace terroriste. Potentiellement, on peut questionner, on peut s'interroger sur ce que fait le gouvernement ou pas. Et on est dans un contexte de défiance extrêmement marquée. On sait qu'une partie de la population souscrit à un certain nombre de théories du complot plus ou moins farfelues. Mais il y a des théories dont on se dit, ben, finalement, quand on voit une histoire comme ça, oui, ben, ça, il peut y avoir un certain nombre de gens qui s'interrogent et qui se disent, mais alors, est-ce que, par ailleurs, il y a des complots sur telle et telle chose? Est-ce que le gouvernement passe pas des accords dans notre dos, ici, avec, je dis n'importe quoi, l'industrie pharmaceutique, parce qu'on sait que c'est un complot qui est quand même dans lequel beaucoup de gens souscrivent. Bon, ça nourrit la défiance et c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est plutôt malsain.
Vous parliez, Frédéric Durand, de l'Italie. On va s'intéresser, tiens, justement, à ce qui se passe chez nos voisins de l'autre côté des Alpes avec cette décision de Matteo Salvini. C'était hier soir, hein, de faire tomber, on peut le dire, le gouvernement dans lequel il occupe pourtant un poste de choix, ministre de l'Intérieur et vice-président du Conseil, le leader de l'extrême droite qui voit plus grand et se verrait bien diriger le gouvernement. Il veut faire quoi, Franck Dedieu? Il surfe, on va dire, sur sa très grande popularité.
Il a tout intérêt à casser la coalition parce que pour lui c'est le moment de prendre le pouvoir et il faut se dire que le chef du gouvernement Giuseppe Conte est issu du mouvement 5 étoiles et donc il se dit c'est l'occasion de prendre sa place. Tout ça est assez, finalement se passe à peu près dans tous les pays, sauf que là il y avait une sorte de Lénine disait, avant de s'entendre il faut d'abord définir ce qui nous sépare. Eux, ils ont défini ce qui au contraire les rapprochait. Ce qui les rapprochait, c'était, je dirais, l'euroscepticisme. Et ils avaient vu, il y avait un fond.
Et l'envie de prendre le pouvoir.
Il y avait
aussi
un fond de cohérence en disant, regardez, nous sommes, tous les gouvernements qui se sont succédés, Monti, etc., ils ont tous été, ils se sont tous aplatis devant le dogme bruxellois de l'austérité. Et donc le mouvement anti-austéritaire, eh bien, a produit cette coalition. Il se trouve que là, il y a une sorte de répartition des rôles. Répartition des rôles en disant le social, ça va être le mouvement 5 étoiles. Hier, on était en train de négocier un SMIC à 9 euros. Un SMIC à 9 euros, il faudrait regarder ça de plus près. Mais ça doit être à peu près un pouvoir d'achat, même supérieur au SMICAR allemand. Hein. Mm-hmm. Les retraites, il y avait la question du revenu universel. Bref, il y avait une répartition des rôles sur le social contre, je dirais, le sociétal au sens de l'extrême droite classique anti-immigration. Bon.
Pourquoi bon, c'est pas le social qui l'a emporté, il est à près de 40% des intentions de vote.
Exactement,
Matteo
Salvini. Qu'est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, finalement, vous avez du chômage, un peuple qui souffre, un pays qui n'a pas pu se relever de la crise économique, et c'est pas lié au mouvement, au gouvernement Conte, c'est pas vrai. C'est bien antérieur. Depuis le milieu des années 90, ce pays n'a pas vécu de croissance économique. Et vous avez raison, au fond, il y a une vraie question à se poser. Pourquoi la thématique sociétale, je dirais droitière, l'emporte sur la thématique sociale plutôt de gauche? On pouvait imaginer un compromis, ils auraient peut-être mieux fait d'écouter Lénine. D'abord, il fallait définir ce qui les séparait.
Frédéric Durand, il est en véritable position de force, là, Matteo Salvini, avec toutes ses annonces.
Et oui, Matteo.
Aujourd'hui, il dit qu'il va baisser les impôts et qu'il se fiche de ce que dira l'Europe.
Mais Matteo Salvini, il a compris que c'était le moment. Quand on regarde son évolution, d'ailleurs, Matteo Salvini, je le rappelle, il prend la Ligue du Nord, qui était en train de se casser la figure. Il enlève le Nord, il appelle ça la Ligue, et il décide de finalement faire d'un parti xénophobe régional un parti raciste national, pour aller vite. Il y a un journaliste italien de la Repubblica qui s'appelle Matteo Pucciarelli qui dit quelque chose qui me semble extrêmement juste. Il dit, en gros, Salvini a lancé la révolte des avant-derniers contre les derniers. C'est-à-dire de ceux qui ont peur de voir leur niveau de vie baisser contre ceux qui n'ont plus rien, les migrants, etc. etc. Donc, Salvini, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se dit, c'est le moment. Il avait déjà fait 37% pour les élections régionales en mars. Il a devancé très largement, pour le coup, là, son partenaire Luigi Di Maio qui est le mouvement 5 étoiles, puisqu'il a fait quasi 35% aux européennes quand le mouvement 5 étoiles fait 17%.
On va vous redonner la parole, Frédéric Durand. On va refaire une pause puisqu'il est 20h40 sur France Info. Un point sur l'actu avec Claire Flochel.
Des conditions météorologiques extrêmes dans le nord-est du pays. Une tornade s'est formée vers 18h à Longwy, au nord de la Meurthe-et-Moselle. Elle a ensuite pris la direction du sud-ouest du Luxembourg, arrachant toitures et arbres sur son passage. Depuis ce matin, 26 départements allant de la Haute-Garonne aux Ardennes sont en vigilance orange aux orages. Les orages qui provoquent aussi des défauts d'alimentation, des caténaires à la SNCF dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Et des trains sont par conséquent détournés ou même supprimés. On ne les compte plus, les permanences de députés de la majorité dégradées ces dernières semaines. Une nouvelle en a fait les frais dans le Var. Celle de Valérie Gomez-Bassac a été taguée à la Roque-Brussane. Ces détériorations visent pour la plupart à dénoncer la ratification par l'Assemblée du CETA, le traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Plus de 2 millions de musulmans l'ont entamé sous une chaleur écrasante. Le pèlerinage à la Mecque a commencé aujourd'hui en Arabie Saoudite dans un contexte de vives tensions entre le régime saoudien et deux de ses voisins du Golfe, l'Iran et le Qatar.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et je vous redonne la parole, Frédéric Durand. On parlait de Matteo Salvini, nouvel homme fort de l'Italie. Vous redressiez en quelque sorte son CV, les différentes étapes en tout cas de ces élections.
Nouvel homme fort qui avait fait quasi jeu égal avec le mouvement 5 étoiles et qui aux européennes fait le double du score de ce qu'a fait le mouvement 5 étoiles. Donc il se dit c'est le moment. Il a avalé Berlusconi et Forza Italia. Il est réellement en position de force. Alors je suis pas sûr de partager complètement l'analyse d'une droite ou extrême droite sociétale contre une on dirait, une gauche plutôt sociale. Parce que je pense qu'il est, dans son populisme, il y a dans la tête des Italiens en tout cas l'idée que Salvini n'est pas antisocial du tout.
Il baisse les impôts pour les plus riches.
Non, mais c'est comme Trump, c'est-à-dire qu'il donne le sentiment qu'il va lui protéger le peuple italien. Vous savez, c'est là que ça se joue aujourd'hui, malheureusement. Ça se joue sur des peurs de déclassement massif. Ça existe, ça a existé aux États-Unis, ça existe en France, ça existe dans quasi tous les pays européens. Et je crois que c'est plutôt là qu'on est à la charnière. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors après, relativisons, c'est-à-dire crise italienne, c'est presque un pléonasme d'un point de vue institutionnel, puisque la moitié des élections législatives depuis qu'elles existent ont été anticipées. Donc,
d'ailleurs, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a dit, et c'était finalement intéressant comme expression, a dit ce n'est pas à Matteo Salvini de décider du calendrier de la crise politique. Oui, ce qui posait le problème, c'était le calendrier, mais bon, que la crise, de toute façon, elle était actée.
Anatana, il la décide, puisque s'il décide qu'à un moment donné, il fait une motion de censure du gouvernement, de défiance, pardon, eh bien, ça va sauter. Donc, il va y avoir un gouvernement technique, peut-être jusqu'à l'automne, et puis, il va y avoir constitution d'un nouveau gouvernement, d'ici, en tout cas, décembre, puisqu'il y a le vote du budget, que c'est très compliqué en Italie. Donc, on va voir là, quel est le nouveau rapport de force que c'est Salvini, c'est qu'aujourd'hui, il est en position de force, et que son intérêt, c'est de faire ça. Après, dit-on en Italie, très souvent, celui qui provoque la crise ne gagne jamais les élections. On va voir si ça se vérifie ou pas.
Et puis, il est fort dans son pays, mais finalement, il est assez isolé en Europe, Chloé Morin.
Enfin, assez isolé en Europe. En tout cas, il a des ambitions européennes de prendre la tête d'une droite qui renverserait l'ordre établi européen. Et je pense que là-dessus, il faut, en tout cas, tous ceux qui sont attachés à l'Europe telle qu'elle est doivent regarder les choses qui se passent en ce moment avec intérêt, sinon inquiétude. Je pense que ça a été très bien dit, la manière dont le rapport de force entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles s'est inversé au cours de l'année écoulée. On a eu aux dernières élections une ligue qui était à 34%. Aujourd'hui, les intentions de vote sont lui donnent 36%. Donc, il continue à progresser. On a l'impression que rien ne peut endiguer cette progression. Et du coup, les projections aujourd'hui, ça serait que si l'élection avait lieu demain, la Ligue obtiendrait près de 300 sièges au Parlement. Contre 125 auparavant. Donc on imagine ce que ça représente. Pour rappel, le mouvement 5 étoiles a actuellement 216 sièges et selon les projections, il passerait à 122. Donc vraiment une inversion totale du rapport de force. Et la question que ça pose, c'est avec qui Salvini gouvernerait-il, puisque même avec 300 sièges, il n'aurait pas la majorité nécessaire pour gouverner. Et c'est vrai que même s'il dit aujourd'hui qu'il ne ferait pas d'alliance en amont d'une élection, le plus probable, c'est qu'il gouverne soit avec le centre-droit de Berlusconi, soit avec Meloni, c'est-à-dire la formation post-fasciste qui a obtenu plus de 6% des voix aux élections européennes. Donc ça donne une orientation, en tout cas, sur ce qui est probable pour les années qui viennent.
Un mot rapide de Frédéric Durand.
Il y a des responsabilités à la montée de Salvini. Il y a des responsabilités en interne. Matteo Renzi, à l'époque, qui était prétendument la gauche, vous vous rappelez, en 2016, fait le Job Act, qui quand même dérégule complètement le marché du travail. Donc là, il y a une responsabilité en interne. Il se fait foudroyer aux élections de 2016 lorsqu'il veut changer de constitution. Ça démarre de là. Et puis, il y a une responsabilité au niveau européen par rapport aux migrants. L'Italie a été le pays qui a dû en accueillir beaucoup. L'Europe n'a jamais réellement aidé. L'Europe n'a jamais été capable de dire, bon, c'est un drame humain. Maintenant, on va se mettre autour de table, se partager, essayer de trouver des solutions. Chacun s'est replié. Matteo Salvini, à partir de là, a eu très beau jeu alors qu'il était le pays qui faisait le plus d'accueil en Europe, en tout cas du côté de la Méditerranée, pour dire, mais maintenant, ça suffit. Alors, et sans cautionner du tout, c'est l'horreur de sa politique. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que rien n'arrive sans cause. Et la cause Salvini, qui est de la même nature de ce populisme de droite extrême ou d'extrême droite qu'on connaît aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde, je crois qu'il a aussi des causes profondes d'une incapacité. Vous disiez tout à l'heure que les citoyens aujourd'hui pensent ne plus rien changer, pouvoir changer en votant. C'est très grave, hein, dans une démocratie. Si on pense qu'on ne peut plus rien changer en votant, ou très peu, ou qu'en tout cas ça ne sert pas à grand chose, et le taux d'abstention des différentes élections le prouve, alors on est dans une phase de crise extrêmement profonde. Et en plus, c'est la réalité. Ils ont eu deux mots, regardez la France, ils ont eu Hollande. Ils ont eu Sarkozy. Sarkozy, plus jamais, le changement, c'est maintenant. C'est Hollande, le changement, qui ne change absolument rien. Je rappelle qu'Hollande met en place...
On va peut-être rester sur l'Italie, simplement.
Non, mais, Durand, oui, oui, vous avez raison.
Simplement que le temps
mais avance, je veux dire qu'il y a des causes dans chacun des pays, voilà. Dans chacun des pays, il y a des causes internes et des causes externes.
On va rien entendre... Allez-y, Claude Morin,
on va très rapidement sur ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On mesure, en fait, dans tous les pays européens, le niveau de défiance vis-à-vis des institutions et le sentiment que on est mal représenté, que les politiques ne s'intéressent pas à nous, etc. Et le seul pays où ce sentiment d'être mal représenté, de ne pas être écouté, a significativement baissé au cours des deux dernières années, c'est l'Italie. Suite aux élections de mars 2018. Donc on voit bien que effectivement, il y a un sentiment que le gouvernement actuel italien, et notamment Matteo Salvini, répond à un certain nombre de demandes des citoyens italiens.
Franck de Dieu.
Oui, c'est-à-dire que finalement, on a dit qu'il y avait une sorte de discrédit de ces partis qui, au fond, ont décidé de ne pas décider. C'est-à-dire, on dit, la souveraineté nationale n'existe plus, et on va imaginer une souveraineté européenne. Rappelez-vous le discours de Macron, en disant, qui a d'ailleurs un sens, hein, la souveraineté européenne, on peut l'imaginer, à partir du moment où tout le monde est d'accord pour aller au-dessus. Là, on s'aperçoit que il y a les peuples en ont assez d'être entre les deux. Ils n'ont plus de souveraineté nationale, et cette souveraineté européenne qu'on leur promet, ils ne l'atteignent pas, et ils ne voit que du libre-échange et que de l'austérité et du libéralisme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un qui dit, ben moi, lorsque j'ai le pouvoir et que j'actionne les manettes, eh bien, je dirais, ça fonctionne. Je dirais, techniquement, il ne s'agit pas de cautionner sa politique, mais de dire, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des résultats, j'ai une légitimité démocratique, et à ce titre-là, eh bien, je peux décider de la maîtrise de mes frontières, je peux décider aussi de mon budget. La question, elle s'était posée, peut-être faudra-t-il y revenir, mais elle s'était posée sur le plan budgétaire. Lorsque vous dites il est isolé, mais c'est justement son atout. C'est parce qu'il est isolé en Europe qu'il réussit. Pourquoi? Parce qu'il est... Je dis « il », Salvini, mais globalement, le gouvernement, soyons quand même assez honnêtes là-dessus, il se retrouve avec un bras de fer face à Bruxelles qui dit « mais non, votre budget là, je suis désolé, il n'est pas conforme à ce que vous avez décidé intérieurement ». Lui, il répond « je suis désolé, mais j'ai une légitimité supérieure à la légitimité de mes prédécesseurs parce que c'est le peuple italien qui a voté pour moi et donc à ce titre-là le budget que je présente avec ou non l'aval de Bruxelles vous avez moins de légitimité que moi parce que moi je suis issu du suffrage universel direct. Cet argument démocratique, c'est ça l'ironie suprême de l'histoire, c'est que celui qui a une tendance non démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien il se base sur un argument de démocratie au sens, je dirais, institutionnel et théorique du terme.
Et on va terminer les informer dans une minute, la dernière partie après l'info. Il est 20h50, Claire Flochel.
Prudence si vous vous trouvez dans l'Est ou dans le centre, 26 départements sont en vigilance orange aux orages. Les territoires concernés vont de la Haute-Garonne aux Ardennes. Fortes précipitations, rafales de vent, une tornade a même touché le nord de la Meurthe-et-Moselle et le sud du Luxembourg. Du rouge au niveau national et même du noir en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée. Les couleurs prévues par Bison Futé sur la route des vacances dans le sens des départs demain. Le maire de Saint-Myon dans le Puy-de-Dôme agressé par un homme armé d'un couteau. Il n'a pas été blessé, mais l'un de ses adjoints a été légèrement blessé en déviant l'arme. Les deux hommes se rendaient chez l'une des habitantes du village. C'est le fils de cette femme qui a sorti une arme. Quatre personnes atteintes de listériose identifiées par le Centre National de Référence des Listeria. Deux d'entre elles ont consommé du fromage fabriqué par la ferme du Castérieux dans les Hautes-Pyrénées. La marque Castérieux procède donc au retrait de la vente et un rappel de tous ces fromages. Et puis la Ligue 1 de football a repris il y a 5 minutes. Monaco-Lyon, c'est en ce moment en match d'ouverture. Où en est-on, Bruno Salomon ?
Eh bien, ça ne pouvait pas mieux commencer pour l'Olympique Lyonnais qui vient d'ouvrir la marque à la 5e minute de jeu par Moussa Dembélé sur un corner de Bertrand Traoré. Très belle tête, 1-0 pour Lyon face à Monaco.
Bruno Salomon, merci beaucoup. On vous retrouve tout le long de cette soirée.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Les informés, Frédéric Durand, Franck de Dieu, Chloé Morin, dernière partie, et oui déjà, et en musique s'il vous plaît.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro.
Zorro, vous l'avez reconnu, bien évidemment, qui fête ses 100 ans aujourd'hui avec cet inoubliable générique de la série de la fin des années 50 que France Télévisions continue toujours de diffuser en 2019. On a tous au moins vu un épisode de cette série. Qu'est-ce qui vous inspire ce personnage de Zorro, s'il vous inspire quelque chose, Chloé Morin peut-être?
Alors je sais pas si je suis la mieux placée pour en parler parce que je me suis amusée à faire le quiz sur le site de France Info justement sur la connaissance sur Zorro et j'ai eu 10 sur 20 donc c'est pas brillant mais non pour moi Zorro c'est essentiellement celui incarné par Antonio Banderas donc
c'est plutôt la
nouvelle génération. Non, c'est intéressant parce que c'est une série qui évoque une Amérique hispanophone alors certes à l'époque où la Californie était au Mexique, mais plutôt
grâce
un monde...
Grâce au quiz, on sait que ça se passait à Los Angeles.
Oui, et plutôt un monde, disons, où les personnages luttent pour la justice sociale, le progrès contre la corruption et la violence. Donc ça, c'est vrai que ça contraste avec l'Amérique de Trump, avec les débats actuels sur le rapport avec le Mexique, l'immigration, etc.
Frédéric Durand, peut-être. Oui, cette comparaison entre Zorro et Trump.
J'ai la chance ou la malchance d'avoir connu les épisodes de Zorro de l'époque. Non, c'est assez, c'est un héros. Alors, on parlait là de, je crois que c'est Cyrulny qui disait ça, qui distinguait les héros vengeurs des héros réparateurs. Là, les Salvini et compagnie sont un peu des héros vengeurs, sont des héros qui fanatisent la foule. Les héros réparateurs, lui, il est là pour apporter le bien. Et c'est ce que fait Zorro. Et souvent, ces héros-là sont plutôt maladroits, fragiles, etc. dans le quotidien. Et puis, dès qu'ils enfilent leurs habits, ils deviennent, pour le coup, héroïque. Et je pense qu'on a besoin on a effectivement besoin de ces héros-là, de ces héros qui soient pas que des héros vengeurs et qui soient des héros qui finalement dépassent leurs conditions premières pour se transformer en héros. Et je pense qu'on en a besoin. En tout cas, moi, j'ai un souvenir ému de ce Zorro-là.
De l'émotion aussi, Franck Dedieu.
Alors, de l'émotion, parce qu'on commémore le centenaire, mais moi, j'ai été assez étonné, parce que pour nous, d'ailleurs, on en parle tous, c'est la série télé. C'est-à-dire cette série télé qui, je crois qu'elle passe aux États-Unis dans les années 50. Elle doit pas c'est arriver ça. Bien tard, plus tard, en France. Ah, non, elle arrive bien avant. Crois, hein, bien avant. Ah, oui. Et quelque part, c'est le premier succès. C'est le premier succès du soft power américain, hein, c'est-à-dire c'est le super-héros, c'est vraiment du soft power culturel à l'époque autour du général de Gaulle. Alors moi j'ai regardé, je me suis dit, à ce moment-là, c'était qui le ministre des Affaires culturelles? Évidemment, c'était Malraux. Et Malraux se félicitait, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même catégorie du soft power. On se disait, mais est-ce qu'il y a un soft power français qui va influencer la culture, la grande culture française, qui va influencer les États-Unis? Eh bien, il se félicitait d'une exposition des trésors de Versailles à Chicago en 1962. Et là, je me dis, c'est beaucoup plus efficace Zorro que l'exposition des trésors de Versailles à Chicago en 1962. Il avait son concept de civilisation planétaire, rappelez-vous. Effectivement, c'est pas la même technique, c'est pas le même marketing. J'ai envie de vous dire, à la fin, qui c'est qui a gagné? Ben, c'est peut-être Zorro, quoi.
Oui, c'est ces héros masqués qui, parce que c'était quand même un bourgeois, voire un aristocrate, puisque c'était en
fait, Don Diego de la Vega,
qui va quand même réparer, défendre les pauvres. Et aujourd'hui, ça me fait penser à cette série qui s'appelle La Casa de Papel, qui a eu succès, qui est un peu sur le même modèle, des gens masqués qui viennent, mais qui sont finalement aimés parce qu'ils sont un peu des Robin des Bois masqués.
Oui, mais ils enfreignent la loi. Et là, on revient au premier débat de ce soir.
Ben, il enfreignait aussi, puisqu'il y a le fameux sergent Garcia qui lui courait toujours après. Hein.
Après, des héros masqués, il y en a eu d'autres, hein, les Batman et compagnie. Oui, bien sûr, finalement, ça n'a pas été le seul. On va être pris un peu par le temps pour les coups de cœur, peut-être très rapidement, en quelques secondes chacun. Je ne sais pas si Franck Dedieu, vous aviez prévu un coup de cœur, un coup de gueule.
Oui, un coup de cœur sur un spécialiste du coup de gueule, c'est-à-dire Mocky. C'est la gouaille à la française, c'est l'esprit anard, c'est pas de faux semblants. Et on parlait tout à l'heure de cette logique de l'authenticité. Ben, lui, c'est vraiment la vérité de la provoque qui contraste un peu aujourd'hui peut-être avec un certain marketing de la rébellion qui m'agace un peu. Et donc voilà, coup de cœur et puis chapeau l'artiste.
Jean-Pierre Mocky qui est décédé hier à 86 ans, le réalisateur, on en a longuement parlé sur France Info. Chloé Morin, un coup de cœur, un coup
moi,
de gueule.
Moi, le rapport du GIEC d'hier qui a fait beaucoup de bruit, parce que c'est vrai que souvent on se dit les citoyens n'ont pas tellement de moyens concrets de se dire comment d'impacter, en fait, d'avoir un impact sur sur la préservation de l'environnement. Et là, c'est vrai que ça donne une piste concrète. Donc, c'est intéressant. Et contrairement à mes camarades qui avaient l'air sceptiques tout à l'heure sur la capacité du citoyen consommateur à imposer, en fait, un changement de modèle, moi, je pense vraiment qu'il y a déjà il y a de moins en moins une séparation entre le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire que les gens vraiment sont aussi citoyens quand ils consomment et il y a une prise de conscience qui s'étend au domaine de la consommation. Et je pense aussi que les transformations de nos comportements ont une vraie influence sur certains secteurs industriels, par exemple. Le secteur agroalimentaire se transforme profondément pour tenir compte de cela. Et donc, je pense qu'on peut changer les choses par le bas, entre guillemets, notamment par les comportements alimentaires.
Frédéric Durand. Non, moi très vite, parce que la prochaine fois, il faudra qu'on se consulte en amont. J'avais choisi le même coup de cœur que ma collègue.
Vous pouvez rajouter voilà, quelque
non, mais,
chose.
Oui, non, mais simplement mots. Parce que je pense que ce rapport, moi je ne l'ai pas lu, j'ai lu déjà les extraits qui sont parus dans la presse, mais je pense qu'il est important de regarder ça de près, parce qu'y compris, il prend en considération les pays émergents, les pays qui sont en période de développement, il en tient compte. Ça revient sur certaines choses, sur les circuits courts, les cultures, etc. Et je pense qu'il y a, voilà, je pense que c'est du bon travail, en tout cas, et ça doit nous inspirer pour l'avenir.
Puisque vous avez la parole, Frédéric Durand, en un mot à la une de la Marseillaise.
La une de la Marseillaise, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue, donc je ne peux pas vous la donner. Mais,
et voilà. La une de Marianne cette semaine.
Ben, c'est notre ministre Castaner, on a titré le copain de l'intérieur au milieu de ses bourdes, de ses maladresses. C'est le protégé du président et on explique un peu les dessous, on explique pourquoi.
Merci, à lire donc en kiosque, maison de la presse, etc. Acheter en tout cas Marianne, Franck de Dieu, Frédéric Durand, Chloé Morin. Merci à vous trois, les informés reviennent lundi.